Bonjour à tous, je suis Florence Vanquali, pasteur de l'église évangélique libre de Toulouse. Et je voulais partager avec vous une méditation sur notre vocation de témoin. La période que nous traversons en ce moment nous met dans un paradoxe. Nous devons limiter nos relations encore plus depuis ce deuxième confinement qui a commencé cette semaine. Nous devons limiter donc nos relations et en même temps, nous avons besoin de contact, de proximité, de chaleur humaine. Si ces confinements et ces couvre-feux nous apprennent quelque chose, c'est peut-être notamment que nous avons besoin d'être physiquement les uns avec les autres. Alors nous sommes dans ce paradoxe. Il nous faut éviter les contacts, et c'est tout à fait sage, vu la contagiosité du virus, et en même temps, nous avons tellement envie de retrouver le cocon de ces relations. Nous sommes comme étirés dans cette situation. Et dans la confusion, dans le paradoxe que nous traversons, eh bien notre vocation de témoin peut sembler secondaire et peut même passer à la trappe. Qu'est-ce que ça veut dire être témoin quand on doit limiter ses contacts et vivre dans un semi-confinement ou dans un confinement total? Alors pour explorer ce sujet, je vous invite à nous plonger dans la prière de Jésus avant son arrestation. Après avoir prié pour lui-même, pour avoir la force d'aller au bout de sa mission et d'accomplir la volonté de Dieu, Jésus confie maintenant à Dieu les disciples qu'il laisse derrière lui. Et donc je lirai dans l'évangile de Jean au chapitre 17, les versets 9 à 23. C'est Jésus qui prie. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés parce qu'ils t'appartiennent. Tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi je vais à toi. Père Saint, garde-les unis à toi, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais unis à toi, toi qui es uni à moi. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui s'en va à sa perte afin que l'Écriture s'accomplisse. Entre parenthèses, Jésus fait ici allusion à Judas, qu'il a trahi et par qui les adversaires de Jésus ont eu les informations nécessaires pour l'arrêter. Je referme la parenthèse. Mais maintenant, poursuit Jésus, je viens à toi. Et je dis ces choses pendant que je suis encore dans le monde, afin que mes disciples aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde a de la haine pour eux parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Alors fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Et ta parole est la vérité. Comme toi, tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient entièrement à toi. Et je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à ce qu'ils diront de moi. Je prie pour que tous soient un. Oui, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux et tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La prière de Jésus ne s'adresse pas directement à nous, mais elle ouvre une fenêtre sur ce qui se joue du côté de Dieu dans notre vie. Le Christ, au verset 19, nous le dit, il se donne entièrement pour nous. Il le dit au Seigneur, « Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient entièrement à toi. » Le Christ se donne, il donne sa vie, sa justice, son innocence, pour prendre en échange sur ses épaules ce qui nous sépare de Dieu. En mourant sur la croix et en ressuscitant, Jésus supprime définitivement tout obstacle entre nous et Dieu. Ainsi, nous appartenons à Dieu, nous faisons partie de ses enfants, de son clan. Et c'est à Dieu, le Père, qui devient notre Père, que Jésus demande de nous protéger, de nous fortifier, de nous remplir de sa vie, de son esprit, de sa sainteté. Remarquez que nous sommes nous aussi concernés par cette prière, comme couverts par cette prière. Une prière qui ne s'est pas arrêtée ce soir-là à Gethsémané, mais qui continue, je le crois, dans le ciel aujourd'hui, où le Christ vivant continue de nous confier à Dieu. Cette prière nous révèle que Dieu s'engage pour nous par l'œuvre du Christ en notre faveur, par le Saint-Esprit qui nous inspire de l'intérieur, par le Père qui intervient pour nous conduire et nous protéger. Parfois, nous croyons être seuls, et peut-être que les semaines qui arrivent nous pèsent déjà par leur isolement, mais le Dieu éternel, dans toute sa richesse, dans toute sa Trinité, s'engage pour nous, avec tout ce qu'il est, à 300%. Cette prière réconfortante nous invite aussi à des prises de conscience et j'aimerais m'arrêter sur les aspects de cette prière qui touchent à notre mission de témoin. Quelle différence voyez-vous entre une balade à vélo et une livraison ? Dans la balade, on prend son temps, on explore les chemins de traverse, on fait des pauses, alors qu'un livreur est concentré sur la tâche à accomplir. Il choisit le chemin le plus court pour arriver à son but. Il est déterminé, orienté. Et puis, le livreur répond à quelqu'un. Il répond à celui qui l'envoie. Les cyclistes, tout motivés soient-ils, ne répondent qu'à eux-mêmes, alors que le livreur, lui, est envoyé. Il a une mission à accomplir. C'est ce que dit Jésus. Nous sommes envoyés dans le monde. Nous ne sommes pas des randonneurs du dimanche qui déposent des petits cadeaux en passant, comme des petits bouquets ou des jolies montagnes de galets pour égayer le chemin. Nous sommes des livreurs, les bras chargés de belles et bonnes choses que nous vivons avec Dieu, envoyés pour les offrir à ceux qui nous entourent. Et nous ne sommes pas les premiers à être envoyés. Jésus nous a précédés. Lui a été envoyé sur terre pour proclamer et offrir le pardon de Dieu, sa joie, son amour et sa justice. Il est venu proclamer et offrir la vérité de Dieu dans laquelle nous trouvons notre paix. C'est ce que racontent les évangiles. Et Jésus a rempli sa mission, mais la mission ne s'arrête pas là. Nous sommes appelés, nous aussi, à proclamer et offrir la joie, l'amour, la vérité de Dieu autant que nous le pouvons. Nous ne sommes pas sauveurs du monde comme le Christ, mais le Christ nous confie cette responsabilité de porter à notre tour, là où nous sommes, l'espoir, l'amour, le pardon et la vérité qui libère. Oui, nous sommes envoyés, c'est-à-dire que nous avons un but et une orientation. Et où sommes-nous envoyés ? Dans le monde. Dans le monde, au sens du monde qui nous entoure et qui ne connaît pas forcément le Christ. Jésus ne nous envoie pas dans l'Église. Il ne prie pas pour nos cultes ou nos groupes de partage. Il nous envoie dehors. Comprenez-moi bien, l'Église est au cœur de la prière du Christ. L'Église est essentielle. Mais l'Église n'est pas une destination. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui reprend le flambeau de la mission du Christ, proclamer et offrir l'amour de Dieu en parole et en actes. Cela nous interroge sur notre vision de l'Église. Parfois, j'entends cette expression « le culte m'a nourri, le culte m'a fait du bien, il m'a encouragé ». Et c'est très bien, mais que disons-nous là ? À quoi sert l'Église ? Est-ce que l'Église est là pour me faire du bien, pour me nourrir, pour me réconforter ? Et là, je répondrai un grand oui. Oui, mais pas seulement. Pas seulement. La vie d'Église, nos cultes, nos temps passés ensemble à nous recentrer sur Dieu, à mieux le connaître et à mieux le comprendre, tout cela a pour but de nous équiper pour notre mission dans le monde, de nous nourrir pour que nous puissions à notre tour être source d'encouragement là où nous sommes tous les jours. Lorsque nous voyons l'Église seulement pour le bien qu'elle nous fait à l'instant T, nous perdons de vue la mission de Dieu pour laquelle le Christ a donné sa vie. Quand nous sommes concentrés sur ce qui compte pour nous, comment nous nous sentons, nos besoins, comment l'Église est pour, comment elle répond à nos attentes seulement, alors nous perdons de vue ce auprès de qui Jésus nous envoie. Bien plus, nous perdons de vue le projet de Dieu lui-même, parce que le désir profond de Dieu, c'est de nous envoyer. Le fruit d'une adoration profonde qui contemple Dieu dans sa gloire éternelle et qui cherche à s'aligner sur sa volonté et sa sainteté, eh bien, ce fruit, c'est de proclamer et offrir à notre tour la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Alors, c'est vrai, il arrive parfois qu'on soit comme en crise ou en convalescence sur le plan spirituel. Et dans ces cas-là, il est légitime de se focaliser sur soi. Mais ça ne veut pas dire que c'est la norme de la vie chrétienne, la norme de la vie d'Église. J'aime le mot que les catholiques utilisent pour leur culte, la messe. En tant que protestante, je n'adhère pas toujours à tout, mais le mot est bon, la messe. La messe, c'est se ressourcer auprès de Dieu avant de repartir en mission. Messe et mission, c'est de la même famille. Ça veut dire qu'on est envoyé. Alors, où sommes-nous envoyés concrètement? Eh bien, dans le quotidien, dans l'ordinaire de notre vie, dans notre monde à nous. Tous les lieux, les moments, les relations qui tissent notre quotidien sont des lieux, des moments, des relations où nous pouvons proclamer et offrir la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu dans nos paroles et nos actes. Est-ce que nous voyons notre vie comme une chance? Est-ce que nous la voyons comme une chance de bénir les autres au nom de Dieu? D'être un encouragement, un exemple, une présence lumineuse et bienfaisante partout où nous sommes? Si nous sommes envoyés, alors nos amitiés, nos familles, nos lieux de travail et d'engagement, nos voisinages, peu importe que nous les ayons choisis, que nous les trouvions plus ou moins agréables et faciles, tous ces endroits qui tissent notre monde quotidien sont autant de lieux où la mission du Christ se poursuit à travers nous. Investissons ces lieux. Prenons du temps pour ceux qui nous entourent. Prenons nos tâches à cœur afin de proclamer et d'offrir en actes et en paroles cet extraordinaire amour de Dieu. Et même si nous devons nous adapter à cause des circonstances, nous pouvons porter bienveillance et encouragement dans notre travail, même en distanciel. Nous pouvons prendre des nouvelles, téléphoner, cultiver des relations qui font du bien. Nous pouvons faire de notre mieux les tâches qui nous sont assignées. Nous pouvons contribuer à une bonne ambiance de travail, à l'accomplissement des bonnes tâches. Notre cercle social est peut-être rétréci, nos conditions d'engagement ont peut-être changé, mais la réalité de notre réseau est toujours là. Pour notre mission de témoin, Jésus insiste sur deux aspects fondamentaux. Le premier aspect, c'est l'unité dans l'Église. Jésus prie pour que nous soyons un. Et ça paraît cohérent. Comment annoncer un Dieu d'amour si nous sommes toujours en train de nous chamailler, ou pire? Que ce soit des divisions historiques de l'Église ou des conflits actuels, nos divisions contredisent notre message. Et souvent, on le renvoie. Oui, si l'amour de Dieu que nous proclamons est réel, alors les fruits doivent être visibles déjà entre nous. Il y a parfois entre nous des tensions qui naissent d'enjeux légitimes. Mais quand nous en venons à la division, comme à des divorces spirituels, la plupart du temps, nous avons beau les justifier, nous ne sommes pas en train de glorifier Dieu. Au contraire, trop souvent, ce qui ressort cruellement, c'est notre incapacité à chercher ensemble ce que Dieu désire, à mettre de côté nos partis pris, nos idées, pour chercher ensemble, avec humilité, ce que l'Esprit voudrait nous transmettre. Ainsi, nos divisions à portée mondiale ou locale, historique ou présente, nos divisions font plus que décrédibiliser notre message. Je me demande si elle n'indique pas aussi parfois notre égocentrisme foncier, notre incapacité au refus à mettre Dieu et ses projets en premier. Car si le Christ et sa mission sont si essentiels pour nous, pourquoi irions-nous nous battre sur des détails, sur la durée du culte, le type de chant, le fonctionnement de telle activité ou telle ligne de budget? Que nous ayons des avis différents, c'est sûr, c'est sain. Mais quand nous acceptons de nous diviser sur des points secondaires, c'est peut-être que malgré nous, nous avons perdu de vue l'essentiel. Alors nous courons tous ce risque de l'égocentrisme foncier. Et c'est pour cela que Jésus prend le temps de prier pour notre communion, pour que nous restions unis à lui d'abord, centrés sur lui et unis à ce qu'il aime. L'autre point, l'autre aspect nécessaire pour notre mission, c'est notre consécration. Notre consécration, et nous sommes consacrés par la parole. Jésus prie pour que nous soyons enracinés dans la parole divine, façonnés par elle, transformés et orientés par les pensées de Dieu qu'elle révèle. Ce que nous proclamons, ce que nous offrons, il est logique de le vivre. Sinon, ça manque de cohérence. C'est le fameux « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Et au-delà de la crédibilité et de la cohérence, qui est un autre reproche qu'on nous fait souvent, il faut aussi que nous ayons vraiment quelque chose à proclamer et à offrir. De quoi nous remplissons-nous? De quoi parlons-nous quand nous parlons de Dieu? Plus nous connaissons Dieu, plus il nous transforme et plus nous sommes naturellement une bénédiction pour notre monde. Dans un autre évangile, Jésus utilise l'image du sel qui assaisonne si bien nos plats. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Demande-t-il. Nous sommes appelés à avoir du goût, un goût céleste, un goût qui indique une autre vie possible avec Dieu par Jésus. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes du monde céleste. Et en tant que chrétiens, nous sommes des exemples, pas forcément des modèles, pas toujours des modèles, mais au moins des exemples comme un groupe témoin de ce à quoi ressemble la vie avec Dieu. Et ce groupe témoin, il est dans le monde. Le sel est dans le monde, pas dans la salière. Et de même que l'adoration de Dieu nous pousse à aimer ceux qui nous entourent, de même la recherche de la sainteté, de la pureté, de la bonté nous pousse à être bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous n'avons pas à opposer sainteté et mission. Si nous appartenons à Dieu, nous accomplirons sa mission. Et si nous accomplissons sa mission, nous nous rapprochons de lui et de ses objectifs. Dieu nous appelle à chercher la sainteté, pas pour nous glorifier nous-mêmes ou pour nous extraire de tous les travers de notre monde, et il y en a, mais pour le glorifier lui. Et Dieu se glorifie, se réjouit lorsque nous offrons comme lui amour et vérité autour de nous à la suite du Christ. La prière de Jésus est réaliste. Elle rappelle que la mission comporte des risques, qu'elle est riche de joie, mais aussi de difficultés. Et c'est pour cela que Jésus prie particulièrement pour que Dieu nous protège. Alors nous pouvons répondre à son appel avec confiance. Nous pouvons répondre à sa mission dans ce contexte qui change et qui nous perturbe, qui nous met dans la confusion. Mais nous pouvons y aller parce que Dieu nous précède, nous accompagne et nous protège.
Extend the love you bore me from. So take my hands and use them. Take my trembling knees. My every breath is borrowed. Take it and use it as you please. be like you in my being. Oh, I wanna be like you. I wanna be like you in my being. Ooh. Be like.